Et en fait, ce système d'engagement social au niveau neurobiologique, il est engagé quand on est en pleine conscience. Il s'engage tranquillement quand on est en pleine conscience. Et quand on est en pleine conscience, en particulier, quand on est agréablement en pleine conscience, quand on profite de cette qualité de conscience, quand on est bien dans l'instant. En fait, même quand on regarde les textes traditionnels, Sati a une valeur affective positive. C'est-à-dire que le fait d'être en pleine conscience est en soi une qualité mentale agréable. Donc plus on arrive à être dans l'instant présent, plus on arrive à profiter de cette qualité de conscience, plus en fait on devient heureux. Donc on n'est pas juste conscient de ce qui se passe, mais on arrive à... être bien de plus en plus du temps grâce à la stabilité de notre attention. Donc Sophie qui nous a parlé de bienveillance, on pourrait parler de veiller au bien dans le sens de chaleur du cœur, dans le sens d'être cet amour, d'avoir cette petite chaleur, d'avoir cette douceur. Et on peut aussi comprendre cette bienveillance comme veiller au bien, veiller à se faire du bien, à être bien. Et être bien, c'est un état agréable, non? D'accord? Être bien. Il y a du plaisir, il y a une qualité de on pourrait presque dire de la joie, peut-être. Et en fait, le Bouddha, il en a énormément parlé de cette dimension du bien, de cette dimension du plaisir, de cette dimension du bien-être, de ces états de méditation dans lesquels on peut approfondir grâce à la pleine conscience qui devient de plus en plus établie, qui mène à quelque chose de plus agréable, d'encore plus stable. Et c'est des états qui surgissent grâce à la pratique de la bienveillance, grâce à la pratique de la compassion. La compassion est même, d'après d'ailleurs le Dalai Lama, une pratique de joie. Donc on peut être en contact avec la souffrance, avec une certaine joie, avec une certaine un dynamisme qui fait qu'on on la vit bien, cette souffrance. Souffrance de l'autre, souffrance de soi. Et le Bouddha en particulier a parlé des états de jhana, c'est que certaines personnes ici en ont pratiqué, qui est en fait un état où, une fois qu'on arrive à être conscient de notre expérience, on est conscient de la respiration, on est conscient des sons, on arrive à maintenir la conscience quelques instants, quelques minutes, plus ou moins sans interruption, au fur et à mesure du temps, on devient de plus en plus absorbé dans l'expérience. Comme si, du coup, il n'y a que le son, il n'y a que la respiration, il n'y a que la sensation. Et ça devient notre monde. Et en fait, ça crée à nouveau, de la même manière que l'évolution a ce mouvement de vie qui devient plus vie, et ben ça crée avec une boucle rétroactive de plus en plus d'intensité dans cette sensation qui fait qu'on se sent encore mieux, le bien devient mieux, le mieux devient extase. Là, c'est des états d'absorption qui peuvent être de plus en plus profonds, qu'on peut pratiquer au fur et à mesure, des fois même de quelques jours, mais ça peut durer aussi des semaines, des mois. Où on peut s'entraîner mentalement à ressentir ces états de manière systématique, durable, et ça crée un refuge de bonheur qui est vraiment assez extraordinaire, dont le Bouddha a beaucoup parlé. Je voudrais vous donner deux images que le Bouddha a mentionnées par rapport à ces états-là. Attendez juste, c'était la dernière phrase du talk de Sophie hier que je voudrais mentionner là, qui est parfaitement adaptée. Sophie a terminé en disant la phrase « L'esprit peut apprendre de lui-même ». Donc le fait d'avoir cette expérience de la respiration, des sons, ou cette sensation plutôt énergétique de la globalité du corps. Et quand on est bien dans cet état, que ça peut durer peut-être un instant ou quelques instants, du coup, on apprend à notre système nerveux, on apprend à notre psyché à être dans cet état de plus en qui devient un état de plus en plus normal. Donc ça devient la norme après. Et c'est l'esprit lui-même qui se montre à lui-même qu'est-ce qui est le bien. On n'a plus besoin d'avoir cette référence extérieure. Donc on devient de plus en plus maître de nous-mêmes au travers de la pratique, grâce au fait de pouvoir faire l'expérience de ces états et de les intégrer au fur et à mesure du temps. Donc je voudrais vous donner une image pour les djhanais, parce que des fois ça paraît un peu abstrait. Imaginons que vous êtes dans le désert, on est dans le désert. Il fait chaud là. C'est pas comme Épernon, hein. On peut se mettre derrière un arbre. On marche dans le désert, il fait super chaud. Et du coup, forcément, on commence à avoir soif. On a chaud, on est fatigué, on a soif. Mais on continue de marcher parce qu'il faut pouvoir arriver à notre état, à notre destination. Et tout d'un coup, donc là, on serait dans quel état là? Imaginons fuite, lutte ou immobilité. On a chaud, on est fatigué, on a soif. Lutte, fuite, ouais. Ok, bah, imaginons, voilà, donc on est en tout cas pas dans l'extase, d'accord, plutôt mal. Là, c'est vraiment la souffrance. Mais tout d'un coup, hop, on a passé cette dune, et du haut de la dune qu'on est en train de marcher, qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes trop fort.
Un mirage.
Ça c'est pour la fin, ça c'est pour la fin. On voit une oasis. Et qu'est-ce que ça fait du coup, le fait de pouvoir s'orienter? On voit une oasis. Ça change déjà quelque chose, n'est-ce pas? Et l'oasis, en fait, le fait de voir l'oasis, c'est la pleine conscience. C'est sati qui revient à l'expérience. Tout d'un coup, on n'est plus submergé par ce soleil, cette fatigue, cette souffrance. Tout d'un coup, on a une perspective autre. On dit ah. On a plus d'espace, on peut voir autrement. Et puis du coup, on voit cette oasis, elle est énorme, avec des palmiers, des coconuts, tout ce qu'il faut. Il y a presque le bar avec la petite musique et tout. On marche, et on est tellement joyeux, on court. Vous sentez courir, l'extase de courir, de voir. C'est dynamique comme état, non? Il y a le cœur qui bat, c'est plein de vie, on va finalement pouvoir boire autant qu'on veut. Bon, ça, c'est le premier jhana. Une fois qu'on a développé cette stabilité de conscience, qu'on arrive à s'orienter dans l'espace, du coup, on a ce dynamisme, c'est presque orgasmique comme intensité qui ça peut surgir au niveau du sang, au niveau du corps, au niveau de l'énergie. Parce qu'après des heures de souffrance, de voir cette oasis, vous imaginez. Extase. Hein? Voilà, c'est vraiment ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive proche de l'oasis? Qu'est-ce qu'on fait quand on est au bord de l'eau? On boit? Vous buvez déjà? Ah non, moi je saute dedans. Bon, vous pouvez boire, hein, chacune, sa version d'histoire. Je saute dans l'eau. Et puis, de sauter dans l'eau, du coup, il y a plein d'eau partout, ça éclabousse. Je ris, c'est la joie. Donc, il y a une qualité de plaisir, le fait de sentir l'eau, la fraîcheur, vraiment l'aspect agréable. Et puis, il y a aussi une côté, ça y est, j'y suis arrivé, côté joyeux. Et là, c'est dans le deuxième jhana, c'est vraiment un des aspects qui ressort de manière plus prépondérante, c'est la qualité affective, la joie. Donc, on passe vraiment de quelque chose de très physique au plaisir, à la joie. Et puis après, on boit l'eau. On est dedans, on se met les mains, et puis on se fait des fontaines, on boit, et on boit, et on boit, et on boit. Et on boit jusqu'à on est prêt à exploser tellement c'est bon. Et ça, c'est le troisième jhana. Où on arrive à boire, vraiment on sent cette satisfaction, on sent ce relâchement, finalement le corps, ça y est, on n'a plus besoin de travailler. C'est le relâchement, c'est le contentement. Donc on passe dans une courbe de plus en plus d'excitation, beaucoup de plaisir, ensuite la joie. Et puis après, ça continue à s'intensifier, mais c'est une intensité qui est en fait plus paisible. La satisfaction de l'éthique. Et pour finir, le dernier jhana, on a tellement bu, on est tellement satisfait, on a tellement eu assez. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on s'allonge au bord du palmier et on se repose. Et là, c'est la paix, mais totale. Elle est complètement tranquille. Donc en fait, cette image, c'est une image qui est dans les commentaires, qui n'est pas que j'ai dû adapter un petit peu à ma sauce. Mais le Bouddha, il a vraiment parlé de ces états comme des états progressifs de plus en plus de bonheur, de la même manière que notre système nerveux a évolué vers des états de menace en grande partie, à un état d'orientation, de présence ici et maintenant, à du coup d'états de plus en plus agréables. Je vais juste vous citer le Bouddha lui-même. Donc il parle à Ananda qui est un de ses disciples, son neveu, son cousin, pardon, son intendant. Et il parle en fait de la gradation des différents plaisirs. Et donc, par rapport aux plaisirs sensuels liés aux cinq sens, nous, petits humains, quand on mange le repas, quand on fait une marche, ça, ce sont les plaisirs auxquels on a accès. Ils disent bien que certains puissent dire qu'ils sont agréables, charmants, attachants, séduisants. Ils en font l'expérience comme le plaisir et la joie le plus élevé qui existe. Mais je ne peux pas leur accorder cela. Pourquoi donc ? Car il y a un autre plaisir plus excellent et plus sublime que ce plaisir. Et quel est, Ananda, l'autre plaisir plus excellent que celui-là et plus sublime ? Il y a le cas où la praticienne, le praticien, isolé de la sensualité, c'est un terme un peu barbare des temps, des textes anciens, ou isolé des sens du plaisir du corps qu'il a décrit tout avant, isolé des qualités malhabiles, isolé de cette qualité du corps, qualité mentale de la distraction, qualité des trois poisons dont Sophie a parlé, de cette envie compulsive, de cette confusion. La praticienne entre et reste dans le premier jhana, qui est l'extase et le plaisir né de l'isolement. Donc dans cette continuité de la présence, on est avec l'expérience, et ça nourrit l'expérience de manière à ce qu'on ait de plus en plus de plaisir dans ce chemin. Je ne sais pas tous vous les lire, mais il continue. Bien qu'il y ait ceux qui disent que le jhana numéro 1 soit le plus grand des plaisirs, je ne peux pas leur laisser dire cela, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il y ait ces quatrièmes jhanas. Et puis juste pour une dernière note par rapport à celle-là, parce que un de mes enseignants, Rob Robert, en Angleterre, à Guy House, avec qui Monica et moi-même, on a beaucoup pratiqué, il disait, si tu m'invites à la plage, la plus belle plage du monde, tu me donnes un cocktail avec une petite orange pelée, le ciel parfait, la mer calme. Même ce plaisir-là, il est complètement incomparable au plaisir du quatrième jhana. Donc, troisième formulation, l'expérience de l'instant est co-créée par notre qualité de présence. L'expérience auquel on est assujetti à chaque instant est influencée par la manière dont on est avec. Et cette manière d'être avec, elle est influencée par notre facilité d'accès aux qualités du cœur, cette bienveillance, le fait de pouvoir veiller au bien, la mesure dans laquelle on arrive à veiller au bien émotionnel et du bien-être, ainsi que le plaisir, le fait de pouvoir savourer le plaisir, en fait, mène à de plus en plus de liberté. Donc on a une qualité de présence qu'on a envie d'enrichir de ces qualités du cœur et cette facilité d'accès au plaisir. Pas parce qu'après, si on n'a plus de plaisir et que vraiment on a mal à la fesse, on se dit non, mais franchement, je suis un méditant nul, en plus je devrais avoir du plaisir et tout ça. C'est sûr que c'est un sujet sensible de ne pas développer une préférence inconditionnelle de manière à ce qu'on devienne intolérant aux expériences désagréables. Mais le fait de pouvoir aborder ces expériences agréables et de les nourrir et de les goûter de la même manière qu'on goûterait un bon repas, eh bien, ça a enrichi la qualité de la méditation. Ok, comme dernière petite interlude, on est en fait en train de développer un nouveau système dans notre système nerveux, mais qui ne s'est pas encore inscrit de manière aussi définie au niveau neurobiologique que ces cinq systèmes précédents, grâce à cette dynamique, cette qualité de contemplation. Parce qu'en fait, en tant qu'espèce humaine, ça fait seulement quelques milliers d'années qu'on pratique de manière systématique cet entraînement du mental. Alors, il y a dans des cavernes en France, par exemple, où on sait qu'il y a eu des rituels il y a 20 000 ans, 30 000 ans, des gens qui avaient déjà une spiritualité. Et probablement que ça se fait depuis beaucoup plus longtemps en Afrique, en Australasie, etc. Mais vraiment d'avoir une tradition avec des pratiques spécifiques qu'on peut entraîner de manière systématique, ça c'est assez récent. Le cerveau ne s'adapte pas aussi rapidement. Et cet entraînement, en fait, il nous permet d'être avec les expériences de souffrance, bien évidemment. Il nous permet d'amplifier notre capacité à être ici et maintenant. Qu'on passe de souffrance à la conscience. Il nous permet de faciliter notre accès au plaisir, d'amplifier ce plaisir et dans la méditation de pouvoir approfondir cette capacité à être plus heureux. On passe de souffrance à la conscience, à la jouissance. Et en fait, comme dernière étape, on peut même aller jusqu'à la transcendance. Donc, je vais partager des éléments vraiment très brefs là-dessus. J'ai la limite de temps. Mais en fait, une fois qu'on a réussi à être présent, qu'on a développé cette capacité de sati, qu'on a réussi à avoir, à intégrer cette qualité du sampajanya, c'est-à-dire d'orienter, de comprendre, de se rappeler, de comprendre notre expérience de manière à ce qu'on souffre moins, qu'on aille vers plus de liberté. Une des manières d'amplifier cette liberté, c'est que on comprenne notre expérience comme une expérience fabriquée. Le Bouddha a beaucoup parlé dans les enseignements que en fait, toute expérience est une fabrication. Et c'est là que le mirage intervient. En fait, le Bouddha parlait de la conscience comme un magicien. Où on fait apparaître des choses, il y a des apparitions, il y a des représentations, mais que fondamentalement, ces apparitions, non seulement elles sont des collections d'un nombre infini d'éléments, donc c'est pas une chose, c'est jamais une chose en tant que telle, mais en plus, même ces choses desquelles qui se sont rassemblées pour cet état de fait, c'est un peu comme la vie, où il y a plein d'éléments qui sont ensemble, mais on n'arrive pas vraiment à définir ce que c'est que la vie. Ben, qu'est-ce que c'est que l'expérience? Est-ce qu'il y a une qualité fondamentale intrinsèque qui existe? Le Bouddha dirait non. Pas pour autant qu'il n'y a rien qui existe. Mais qu'en fait, tout ce dont on fait l'expérience est vide d'essence intrinsèque. Tout est fabriqué. Tout est fabrication. Donc quand on dit que l'expérience est co-créée par la qualité de perception, en fait, on peut avoir du coup une perception tellement claire, tellement précise et profondément ajustée par rapport à la nature de l'émergence de l'expérience, qu'on voit à quel point même nous, qui paraissent comme des êtres réifiés, des êtres indépendants, des êtres, des êtres qui existent, en fait, n'existe pas. Moi, il n'y a rien qui perçoit, il n'y a rien qui est perçu. Et ça, c'est en fait, c'est une des manières de comprendre l'expérience du nirvana. Il n'y a plus d'expérience. Dans les textes, on parle de conscience sans manifestation, de vide de toute distinction. C'est une expérience au-delà des six sens, immortelle, sans fondation ni continuité. En fait, on arrive à être avec l'expérience et de voir la manière dont on construit cette expérience. Et parce que on la construit, c'est comme si du coup il y a tout le château de cartes qui tombe. Que cet aimant scolaire, elle surgit de par le fait que on a un besoin qui n'a pas été assouvi. Et ce besoin est lui-même traduit et connecté à différentes sensations dans le corps qui deviennent de plus en plus dissoutes. Du coup, il y a un espace qui s'ouvre et cet espace devient de plus en plus ouvert et libéré. Et en fait, de la colère à plus rien. C'est comme un peintre qui peint une image, de la même manière qu'un peintre qui peint une image, de cette même manière, on fabrique notre corps, nos sens et notre monde. Le mirage. Donc, quatrième variante, dernière variante, l'expérience de l'instant est co-créée par notre qualité de présence, qui est elle-même influencée par l'intégration ou la compréhension de la vacuité. Plus on arrive à intégrer ce processus de construction, de fabrication de l'expérience, plus ça va influencer de manière plus en plus libre ce qu'on vit. Je voudrais vous clore avec une citation de Yvan Amar, qui était un sage français. Je suis tout fier parce que d'habitude, j'ai des références anglophones, mais là, je suis en France, alors Yvan Amar, j'espère qu'il y en a certains qui connaissent quand même. Non, en plus, personne ne connaît. Dans cet état de liberté, l'esprit, qui n'est plus ni faussé, ni torturé, ni biaisé, qui n'est plus le jouet d'aucune chimère, illusion, idéologie, mystique ou vision, cet esprit-là peut aller très loin, mais pas dans l'espace ou dans le temps, car il n'y a plus d'espace ni de temps dans cette liberté-là. Voilà un des résultats potentiels de cette expérience entièrement vide du nirvana. propose de prendre quelques secondes jusqu'à terminer. Silence. Enseignement puisse-t-il être pour le bien-être de chaque être.